Bien, alors moi je vais vous dire en entrée, d'abord je vais remercier Jean-Louis et cette belle institution de nous inviter pour ce premier tour. On avait dit qu'on va imaginer de le faire migrer ici et là. Il est vrai qu'à l'occasion des assises de la recherche, ça s'appelait comme ça, aux états généraux, je ne sais plus, de la recherche, nous étions autour de la même table ronde et en discutant, en sortant, on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis beaucoup dans le déni, c'est-à-dire que je fais des choses, mais je n'aime pas dire que je les fais. Alors, c'est-à-dire que donc, je fais du droit global, mais je n'aime pas dire que c'est du droit global. Voilà. Je fais finalement beaucoup de droit international privé, puis je passe mon temps à dire que je crois que le droit international privé est une discipline qui est largement hors de mon champ, de ma perspective. Voilà. Où je dis souvent que j'aime pas faire la théorie, parce que je ne suis pas armé pour faire la théorie. Puis finalement, quand je parle avec des théoriciens, ils me disent, ma fille, je sais, tu fais de la théorie, mais tu t'en rends même pas compte, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui m'arrive avec le droit global. Je n'ai jamais eu l'ambition d'entrer dans mes objets par ce type de vocabulaire, que ce soit droit global ou droit transnational. Et puis, à la faveur de nos échanges, des histoires qui vous rattrapent un peu, du poste que je vais occuper la rentrée prochaine et qui est un poste fléché droit global, c'est, je crois, le premier poste, en tout cas dans une perspective privée, fléché droit global dans une université française. Je pense que dans le poste qu'a occupé Jean-Bernard Auby, il y avait une dimension droit global, mais qui était connotation SPO, mais connotée droit public. Donc bref, le droit global me rattrape en quelque sorte. Donc il faut que maintenant je cours après la chose plutôt que elle qui me courait derrière. Voilà, on est passé à un autre stade. Alors, je vais assez modestement vous présenter comment je peux essayer de connecter une recherche qui est finie, terminée, et une recherche en cours avec la thématique d'aujourd'hui, en faisant un effort pour évidemment que ça se réponde et en espérant que ça viendra alimenter notre réflexion d'ensemble. Alors pour ça, j'ai prévu une petite introduction et puis une présentation des deux temps importants dans la démarche que j'ai développée ou que je continue à essayer de développer. Et j'essaierai de vous montrer, de mon point de vue, en quoi ça peut alimenter une réflexion sur le thème d'aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais vous dire quel est mon point de départ. Mon point de départ est de considérer que je ne cherche pas à construire une matière. Donc là, je rejoins les points de vue qui ont été largement échangés depuis tout à l'heure. Et pire encore, je ne cherche même pas à faire un travail sur le vocabulaire. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de vouloir absolument fixer les choses autour d'un mot plutôt qu'un autre. Je laisse ça à d'autres. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire à un moment ou à un autre. Mais je dis que ce n'est pas ça qui, moi, me permet de me construire par rapport à mes objets. Je n'ai pas l'ambition de créer une nouvelle matière qui viendrait anéantir les précédentes. Je n'y crois absolument pas. Et franchement, ça ne m'intéresse pas. Et quant au vocabulaire, je crois volontiers qu'il y a plusieurs mots pour dire les choses. Bon, bah, à un moment donné, on peut utiliser un mot plutôt qu'un autre. Alors, peu importe, mais en tout cas, ce n'est pas mon point de départ. Mon point de départ, c'est de vivre une expérience de droit global. Alors, j'emprunte le mot droit global. Je vais assez délaisser le mot droit transnational qui correspond moins à ma démarche. Et je cherchais, comme enseignant-chercheur, à vivre ma propre expérience de droit global à travers une figure que j'ai essayé d'imaginer, de concevoir, autour d'un travail qui a donné lieu à un ouvrage en français qui est derrière, qui est avec un titre, vous voyez, qui se veut très modeste, c'est volontaire, l'application du droit national, international et européen, qui a été adapté en anglais avec l'aide d'une collègue l'année dernière, là qui est moins modeste, le titre c'est Operating Law in a Global Context. Vous voyez donc, j'ai cédé un peu quand même. Et puis, je vais également faire le lien avec un travail en cours, financé par l'Institut universitaire de France, et qui va donner lieu à un ouvrage dans la même collection Dalloz, qui a accepté de m'accueillir une deuxième fois, dont le titre prévoit de le publier dans 2 ans, Les situations en mouvement et le droit, avec un sous-titre qui serait Nouveaux phénomènes, nouvelle épistémologie. Donc ça, c'est mon cadre général de travail. Ce cadre général de travail, encore une fois, qui est d'essayer de vivre une expérience au contact de ce que nous appelons aujourd'hui, ou de ce que nous pourrions appeler le droit global, ou si on veut le droit transnational, est centré sur le juriste global. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des situations où le juriste, qu'il soit avocat, qu'il soit juge, qu'il soit théoricien, peu importe, le juriste d'entreprise, de toutes les familles de juristes que l'on peut imaginer, essaye de comprendre qu'il est confronté à un phénomène de dimension globale et s'oblige à réfléchir à la manière dont il va appréhender ces phénomènes de dimension globale. Et pour situer mon travail, puisque je ne voulais pas avoir une entrée savante qui cherche à me placer dans la généalogie des pensées toutes aussi bonnes les unes que les autres, c'est pas que je les méprise, c'est que je voulais pas être, disons, capoté par un autre, je voulais vivre mon expérience à moi de droit global en toute modestie, j'ai décidé de me placer à un stade qui est le stade de l'application du droit, d'où le titre de l'ouvrage que vous avez sous les yeux. Alors je m'explique, mon but n'est pas de rechercher une essence globale du droit, donc ça je l'ai déjà dit d'entrée, hein, aucun positionnement essentialiste évidemment, et mon but n'est même pas d'essayer de repenser la manière de faire du droit, non, je prends le droit tel qu'il est, dans sa diversité la plus grande, d'origine publique, la majorité des règles d'origine privée, à des niveaux locaux, nationaux, régionaux, internationaux, transnationaux, si on accepte, et j'accepte volontiers que ça existe, peu importe, et à un stade de la mise en œuvre de la règle de droit, je dis voilà, le juriste qui doit appliquer la règle de droit va se trouver confronté à des phénomènes de globalisation. Comment le juriste, quelle méthode le juriste peut-il essayer de mettre en œuvre pour appréhender ces situations dites globales? Alors pour essayer d'identifier ces situations globales, toujours en procédant de manière progressive, moins dogmatique possible, même si bien sûr on en fait toujours, j'ai pris une entrée qui était l'entrée, disons, la plus commode, qui me semblait la plus commode, qui est l'entrée du pluralisme juridique global, qui est une expression assez spécialisée dans sa signification, une forme assez propre de pluralisme juridique, et qui vise spécifiquement le pluralisme induit par les phénomènes de mondialisation et de globalisation. Et un des pères de cette expression, c'est Francis Snyder, avec une figure connue qui est la figure de la poupée Barbie. Hein, il prend l'exemple de la construction, Mattel qui cherche à faire fabriquer sa poupée et qui cherche à trouver une unité de production pour le monde entier. Bon, évidemment, il va aller la trouver plutôt en Chine. Cette unité, en l'occurrence, c'est pas en Chine, mais peu importe, à l'époque, c'était ailleurs. Voilà, mais c'était pas loin. Maintenant, c'est dedans. Bon, Hong Kong, en l'occurrence. Et il va essayer d'imaginer, il va dire, voilà, une poupée, c'est un jouet pour enfant. Un jouet pour enfant est assujetti à un nombre de réglementations impératives important, puisque évidemment il y a des questions de sécurité qui sont en jeu. Et donc il va falloir fabriquer l'objet qui est conforme aux lois du monde. Et pour ça, il va falloir imaginer dans le contrat qui va définir le cahier des charges de production de la poupée, une sorte de modèle de loi globale capable, avec bien sûr des prises de risque, parce qu'on ne peut pas échapper à tel ou tel particularisme local sans compter son application, avec toutes les arcanes qu'il peut y avoir, hein, je peux prendre simplement la figure de la corruption, bien sûr. Bon, donc on sait bien qu'on n'est pas dans de la science exacte, mais enfin, on va essayer de définir quelque chose qui puisse être compatible avec, disons, 40 ou 50 pays du monde. Évidemment, dans les 40-50 pays, on va mettre les gros pays qui nous intéressent. Et avec ça, on va essayer de fabriquer quelque chose qui correspond à un droit qui va se nourrir de différentes sources et qui a une potentialité globale, c'est-à-dire qui va permettre la distribution, la vente en l'occurrence, d'un objet dans le monde entier, la poupée Barbie. Donc je pars de ce prisme de pluralisme juridique global, c'est-à-dire encore une fois des formes publiques ou privées de pluralisme juridique induit par la mondialisation, et je me demande comment le juriste peut-il définir sa méthode ou ses méthodes de travail pour faire face à ces situations de pluralisme juridique. Et pour ça, je refuse de me placer sous la filiation d'une matière plutôt qu'une autre. Donc, je les utilise toutes. Je peux utiliser du droit international public comme du droit international privé, du droit du commerce international, du droit constitutionnel, du droit pénal national, du droit civil, bien sûr, du droit du travail. Bref, tout est bon. Dans ma recherche, naturellement, j'ai été plus porté sur des droits d'origine publique que des droits d'origine privée parce que c'est plus facile à travailler. Mais j'ai quand même pensé un cadre méthodologique qui pouvait parfaitement s'appliquer aux objets d'origine privée. Simplement, quand vous travaillez avec des sources d'origine privée, comme par exemple des modèles de contrat ou des conditions générales ou des choses comme ça, il faut faire un vrai travail très profond d'analyse de la situation pour en sortir quelque chose. Et vu l'immensité de mon objet, évidemment, je n'étais pas en mesure, je sous-traitais, quoi. Je prenais le travail fait par d'autres dans un certain nombre de domaines, sans chercher à éprouver par moi-même, ce qui aurait été en soi l'objet d'un livre, un domaine en particulier. Voilà la situation à laquelle je me trouvais. Dernier élément, toujours un peu pour les explications liminaires, je n'étais pas du tout obsédé par les questions de savoir si l'État était une figure passée ou futur, s'il était menacé ou non. J'avais bien compris en lisant les historiens que c'était une figure tout à fait moderne, enfin disons relativement moderne, que donc on s'en était passé pendant très longtemps, que peut-être on s'en passera ou dans une certaine mesure ce sera dépassé, ça peut-être, mais c'était pas du tout mon obsession et ça s'explique par le fait que je suis pas du tout publiciste et surtout je n'aime pas définir mes objets en me devenant des ennemis. Je fais toujours très attention à ça d'un point de vue méthodologique. Je pense que toutes les pensées qui se construisent par opposition sont des pensées qui s'auto-pervertissent parce qu'elles finissent par ressembler à ceux qu'elles combattent. C'est le flic qui devient un voyou à force de vivre avec des voyous toute la journée. Voilà, c'est un grand classique. Et donc, je ne travaille pas comme ça. Je refuse de travailler comme ça. Je ne pense pas qu'on fait du droit mieux qu'un autre. Ça, c'est une posture qui me semble tout à fait vaniteuse. Et donc, je préfère simplement essayer de me donner un objet sans me trouver des sortes d'ennemis ou de pensées à tuer sous prétexte qu'elles iraient dans une autre voie que la mienne. Bien. Donc, la question de l'État là-dedans n'était pas du tout ma préoccupation, même si ça peut le devenir à l'occasion de tel ou tel exemple, peu importe. Alors, partant de ces différents présupposés, j'ai, et c'est la réponse à l'invitation, enfin, ou à la co-définition du séminaire d'aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé sur des questions de méthode. C'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer, d'ordonner une méthode de travail qui soit à la fois élémentaire, donc d'une simplicité stupéfiante, mais à la fois capable d'être déployée dans des champs extrêmement diversifiés. Et dans le livre de 2013, sur l'application du droit national international européen, je prends une figure d'en fin d'introduction qui est une provocation, puisque je dis, ben, ma méthode, c'est la méthode d'un enfant de 4 ans. Donc là, c'est vraiment une insulte à tous mes collègues juristes qui pensent qu'on ne peut faire du droit qu'à partir d'un certain âge, hein, bien sûr. Donc, c'est la méthode d'un enfant de 4 ans, devant qui on place des cubes. Mon épouse est un stit, alors j'ai fait vérifier la chose. L'enfant observe les cubes dans un premier temps. Ensuite, il commence à essayer de jouer. Et donc, il essaye de construire quelque chose de rationnel ou d'irrationnel selon sa personnalité. Et puis, au bout de 10 minutes, il en a marre. Il prend un cube et il sort de la pièce et il va passer à un autre jeu. Voilà. Donc, moi, c'était la même méthode que j'ai appliquée pour les règles de droit ou les situations. L'appréhension des situations suppose une phase de comparaison extrêmement ouverte. Le juge accepte de s'ouvrir à tous les phénomènes susceptibles de l'intéresser tant soit peu comme juriste à l'approche de sa situation, il compare. Deuxième temps, il combine avec des choses qui peuvent être extrêmement fortes en termes de résultats. Je prends toujours l'équation de 1 plus 2 égale 3. Le juriste prend la règle 1, pour faire simple. Il ajoute la règle 2 et il procrée. On m'a accusé de procréation juridique. Il procrée le résultat 3, qui n'est passé évidemment par aucun cénacle démocratique. Hein, son génie a été d'associer un élément d'un système à un élément d'un autre système, au sens très large du terme, et d'en faire une troisième solution, avec des exemples très précis. Et puis, troisième temps, Là, ça a été l'objet de grosses discussions. Hein. Je me suis notamment, j'ai eu un gros débat au Centre de théorie du droit, en présence notamment de Michel et Michel Tropper et Pierre Brunet, notamment. Il y avait aussi Éric Millard, etc. Tout le monde était là. Je leur dis, à la fin, on hiérarchise. Donc, je faisais exprès de ne pas commencer par la hiérarchisation parce que tout le monde commence par la hiérarchisation. À la fin, on hiérarchise. C'est-à-dire qu'à la fin, le juriste, dans un environnement global, dit ça suffit, on arrête de jouer, il nous faut une solution. Donc pour ça, il faut planter la recherche de solutions quelque part, et dans ce quelque part, on va avoir des outils de hiérarchisation qui vont nous amener à choisir plutôt telle solution que telle autre, et c'est ce que nous avons l'habitude de faire dans la plupart de nos systèmes. Voilà, ça c'est le cadre méthodologique qui a été défini dans le cadre de ce travail. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pensé vous présenter de la façon suivante la méthode, avec deux expressions qui sont venues pas au moment de la rédaction de ce travail, mais qui sont venues dans la poursuite, hein, le post-travail et la recherche actuellement en cours. Et donc, comme c'est annoncé dans le titre, je vais vous proposer deux développements assez courts sur contextualisation et circulation, en vous expliquant de façon volontairement très simplifié, si vous voulez qu'on aille dans des choses plus difficiles, on prendra des exemples tout à l'heure, dans le cadre de la discussion. Alors, premier élément, l'élément de la contextualisation. La proposition est la suivante. Ce qui compte, ce n'est pas la règle de droit que j'applique, c'est le lieu où je l'applique. Donc, fini de raisonner dans ma perspective, on peut continuer à raisonner comme on veut, bien sûr, fini de raisonner dans ma perspective en termes de source, raccroché à un système de normes. Ça, c'est ce qu'on fait en première année de droit et qu'on enquille ensuite dans les années suivantes. Moi, mon point de départ, c'est le site, le lieu, quel qu'il soit. Le lieu peut être un juge public, un juge privé, peut bien sûr ne pas être de juge, parce que il y a plein de situations où il n'y a pas de juge. Drôle de façon d'enseigner le droit aux étudiants en imaginant qu'il y a toujours un juge, alors que la plupart du temps, il n'y a pas de juge, il y a des systèmes où même le juge est tellement cher que, évidemment, on s'en passe. Donc c'est un site, c'est un lieu, et ce lieu va faire appel à une pratique de juriste. Alors ma recherche n'a pas porté à proprement parler, point de différence avec d'autres ici présents, sur la pratique des juristes, parce que là encore, il aurait fallu mettre les mains dans le cambouis et aller sur le terrain, forcément bien défini, d'un certain nombre de pratiques. Donc, ce n'est pas du tout le sens de ma démarche. Mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine qu'il y a des lieux et que dans chaque lieu, pour peu qu'il soit un minimum juridicisé, si j'ose dire, eh bien, il y a des gens qui savent appliquer le droit, qui ont une manière d'appliquer le droit et donc qui ont une pratique juridique. Et donc, mon tandem important pour moi, c'est plus le tandem source-système ou le trinôme source-système-norme, ça devient le tandem site-juriste et culture juridique. J'adopte délibérément un parti culturel et je vais reprendre un exemple qui a été cité tout à l'heure. Quand vous disiez que tu disais par exemple que l'arbitre qui applique la loi nationale n'est pas le juge national qui applique la loi de son système, quand Jean-Louis faisait référence à la situation où on importait un mécanisme clé en main venu d'ailleurs dans son propre système, c'était nécessairement quelque chose de différent qui allait être produit, eh bien c'est exactement ça que je décris. Donc, quelle que soit la règle que j'applique, la question cruciale pour laquelle le juriste doit développer un appareil intelligent de compréhension, c'est le site. Et encore une fois, par site, on entend des sites publics, des sites privés, des sites rattachés à des terres, des sites transnationaux. On peut tout mettre. C'est évidemment complètement égal de mon point de vue. Partant de cette approche donc contextuelle, qui n'est pas en soi une nouveauté, je veux dire, c'est un tas de gens qui ont déjà pensé l'application du droit comme ça, j'ai identifié que le juriste ait à faire un travail de définition de son cadre de référence, que j'appelle le cadre de référence du juriste. Alors, bon, je ne vais pas vous faire la référence à mon propre travail et à la généalogie de ma réflexion sur le sujet, je vais au résultat, peu importe. Il y a deux cadres qui me semblent intéressants. Il y a le cadre factuel de référence et il y a le cadre juridique de référence. Le cadre factuel de référence, c'est pour le juriste placé en situation globale, c'est de savoir où commence et où s'arrête le fait qu'il a l'intention d'appréhender. Quelle perception il a du fait qu'il va appréhender. Est-ce qu'il veut appréhender un fait délimité dans un espace précis présent dans un espace qu'il considère comme illimité, véritablement transnational, quel type de démarche il va avoir. Est-ce qu'il va vouloir tout embrasser ou embrasser simplement un élément de la réalité. C'est la première question qu'il doit être amené à se poser. Alors ça paraît élémentaire. Il y a des disciplines, alors je pense au droit pénal. La matière pénale est très intéressante parce que la matière pénale définit le fait examiné par la procédure, et c'est le fait examiné par la procédure qui tient à la procédure. C'est-à-dire que si vous sortez de ce cadre factuel, vous sortez de la procédure, et tout ce que vous allez chercher en dehors du cadre de la procédure est nul. Et c'est particulièrement vrai dans les justices internationales, où on délimite très précisément l'objet de la poursuite au départ, et si on sort, eh bien, il faut ouvrir une nouvelle procédure, ou faire des extensions de procédure, mais il y a des actes de procédure pour ça, donc on a un cadre factuel extrêmement défini. Il y a des domaines où ce n'est pas le cas. Alors, je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé avec des sociologues et des juristes, la gestation pour autrui à l'étranger. Ça, c'est un très bon exemple. Vous avez plusieurs manières de prendre le problème. Soit vous saisissez le problème dans sa globalité, donc vous essayez d'appréhender par la règle de droit le fait que des parents d'intention ont eu la stratégie de se déplacer à l'étranger, de passer un contrat de mère porteuse avec une gestatrice, de la rémunérer, de récupérer, excusez-moi, un bébé, de le ramener sur leur territoire et de faire produire à cet enfant, si j'ose dire, ses effets, ou en tout cas de lui donner un statut et un lien avec ses parents d'intention. Soit vous avez donc une approche totalement globale, soit vous pouvez avoir une approche totalement parcellisée, où vous considérez que ce qui vous intéresse, vous, c'est simplement le petit bout d'histoire qui se passe chez vous, donc peut-être au moment du départ si ça pose un problème, ce qui est rarement le cas, et plutôt le problème au moment du retour, où là, votre question est seulement de savoir si vous allez ou non accepter d'enregistrer à l'état civil, pour prendre cet exemple, d'enregistrer dans une école, pour prendre un autre exemple, l'enfant en question qui a été fabriqué dans des conditions de ce qu'on appelle en droit international privé de fraude à la loi, où on a cherché potentiellement à contourner un interdit national. Bon. Donc ça c'est un type de questionnement auquel on n'est pas préparé. Rarement préparé, en tout cas dans les universités. Pourquoi ? Parce que ça supposerait que le juriste accepte de considérer qu'il se saisit du global, hein, donc son entrée globale, et que la première question stratégique qu'il doit se poser, je ne dis pas qu'il a nécessairement la réponse, c'est de savoir s'il embrasse tout ou s'il décide de n'embrasser qu'une partie de la situation. Et ça change tout. Ça change tout, au final. Donc il y a un premier élément. Deuxième élément, le cadre juridique de référence, sur lequel j'avais beaucoup travaillé en 2013, beaucoup plus que le premier, qui vient plus maintenant, mais peu importe. Cadre juridique de référence. Alors là, l'objection, et c'est clairement une objection que je fais à l'égard du droit international privé, en tout cas d'une vue, disons, étroite, qui est de moins en moins courue du droit international privé, l'objection est la suivante. On ne peut pas, dans des situations globales, s'en tenir à la question du droit applicable. Et du juge compétent. Ce n'est pas possible de limiter le traitement de la situation par simplement quelle loi j'applique devant quel juge. Pourquoi ? Parce que dans un contexte global, on va pouvoir être amené à faire produire des effets. Alors, je ne sais pas comment on va les appeler, ces effets. Des fois, ce sera des effets de droit. Des fois, ce sera des effets de fait. Hein. Mais moi, ça m'est égal, tout m'intéresse, hein, pourvu que ce soit dans ma situation. Et donc, je vais devoir tenir compte, et on le sait bien dans la pratique, tenir compte d'un certain nombre de paramètres juridiques, on va dire, qui sortent de la question, disons, relativement bien normée et à juste titre, parce qu'on a besoin d'avoir des réponses précises à ces questions difficiles, du droit applicable. Et donc, il faut penser le cadre juridique de référence de manière beaucoup plus large qu'on ne le fait habituellement à travers le schéma du droit applicable. Voilà donc les deux pied en quelque sorte de la contextualisation. Quel est mon cadre juridique de référence en situation globale, factuel de référence, quel est mon cadre juridique de référence? La difficulté, bien sûr, c'est d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui va commander une approche ouverte, très large d'une situation ou une approche étroite, qu'est-ce qui va commander que l'on mette dans le cadre juridique des références telle référence juridique plutôt que telle autre ? Là, évidemment, c'est la question que se pose le juriste. Et la clé que j'ai trouvée en 2013 et que j'ai décidé de continuer à creuser dans le cadre du projet de l'IUF, c'est la circulation. J'ai essayé d'expliquer, parce que c'est l'objection qu'on m'a soulevée, hein, on m'a traité au Centre de théorie du droit de global lawyer qui fait cabinet d'avocats, qui fait du law shopping, du forum shopping, qui n'a aucun scrupule, qui fait son marché dans le monde entier au mépris de l'ensemble des règles existantes. Et je leur ai dit pas du tout, le juriste ne fait pas ce qu'il veut, il a des contraintes, et donc j'ai essayé de traduire juridiquement, ou en tout cas le plus juridiquement possible, cet état de contrainte. Et cette contrainte, c'est la globalisation, bien sûr, qui fait que le juriste va devoir tantôt ouvrir sa perspective, tantôt la fermer, d'un point de vue factuel ou d'un point de vue strictement juridique. Alors, je m'explique. Dans le travail de 2013, le cœur du travail de 2013, c'est d'expliquer toutes les situations où le juriste est obligé soit de tenir compte de ce qui s'est fait avant lui à propos de la situation qu'il traite, ou de ce qu'il sera fait après lui à propos de la situation qu'il traite. Et pour essayer de concrétiser cette hypothèse, j'ai essayé, par une identification de situations très nombreuses, d'illustrer tous les cas, très élémentaires ou parfois beaucoup plus compliqués, où une situation pouvait migrer d'un environnement à un autre. Alors bien sûr, on est très habitué, dans une approche comparatiste de droit international privé, à imaginer des migrations au même niveau. Bon, par exemple, le travailleur salarié en France qui est détaché pour une prestation de service en Espagne pour 2 mois et qui revient, bon ben là, on a clairement un problème au niveau de 2 États et on doit gérer, appréhender cette situation qui présente un élément de globalisation avec des outils qui intéressent l'application du droit français et espagnol dans mon exemple. Mais j'avais accepté d'être très ouvert, c'est-à-dire d'imaginer qu'on puisse avoir des déplacements des situations à des niveaux différents. Ça, c'est l'originalité de la démarche de 2013. Je mets sur un même pied les deux, je ne les cloisonne pas, et je dis tous les passages national, international, européen, toutes les voies de passage, hein, tu disais tout à l'heure, les systèmes sont matériellement ouverts et formellement fermés, ils sont, en tout cas dans la perspective française, européenne, qui est très singulière, je suis d'accord, de plus en plus formellement ouverts et interconnectés par des questions préjudicielles, des recours en manquement, des possibilités de transformer un contentieux interne en contentieux interétatique par le jeu d'une protection diplomatique ou d'une plainte devant un juge international, l'ORD dans mon exemple, etc. etc. Et donc, là, ça multipliait les exemples, littéralement, et ça montrait comment le juriste avait conscience que ce qu'il faisait dans son fort, dans son système, avec sa rationalité, subissait des influences. Alors, juridique, pas juridique, je m'en moque. À vrai dire, je n'ai pas cherché à cliver, c'est parce que ça ne m'intéresse pas de le travailler comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment cet état de contrainte, qui est à la fois, qui des fois n'est pas juridique, mais a des effets juridiques, qui des fois a une origine véritablement juridique, ça, mais à la limite, ça m'est égal, modifie profondément le travail du juriste. Et alors, je me suis permis des lectures, relectures audacieuses de cas connus que j'ai essayé de réexpliquer, de reconstruire à départ de cette méthode sans prétendre avoir la vérité. Je n'étais pas dans la tête des juges. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se font sans que les juges en aient conscience, hein, bien sûr. Et c'est à nous de faire tout le travail d'explicitation de l'environnement pour qu'ils se disent « Ah ben oui, c'est ça ». Mais quand même, je peux vous dire que dans les nombreuses occasions que j'ai eues de présenter mon travail dans des cercles très différents en France et à l'étranger, les praticiens, ils comprennent toujours ce que je dis. Hein. J'ai jamais de problème avec les praticiens. J'ai des problèmes avec des collègues qui considèrent que c'est hors de leur matière, donc ils refusent de s'y intéresser. Mais je n'ai aucun problème avec des praticiens, quels qu'ils soient, y compris des gens qui sont bien ancrés quelque part. Je ne parle pas de global lawyer, hein, de conseiller à la Cour de cassation. Je leur parle de ça, la GPA. Ils comprennent très très bien ce que c'est que la contrainte de la CEDH. Hein, toutes les semaines, maintenant, ils ont l'œil rivé sur les arrêts qui tombent en milieu de semaine de la CEDH. Le Conseil d'État, c'est pareil, alors qu'à une époque, c'était exactement l'inverse. Bon, donc, c'est une réalité. Je vais prendre un exemple juste pour vous donner un schéma. Je prends le cas du massacre de Distomo, vous savez, dans ce village grec en 1944, où des troupes allemandes ont massacré 250 personnes. Il y a eu, pour cette affaire, des procédures en Grèce, en Italie, en Allemagne. Tout l'enjeu de la question était de lever l'immunité de l'État allemand pour que les victimes ou les enfants des victimes puissent demander réparation des dommages subis. C'est allé devant la CEDH, bien sûr, après épuisement des voies de recours, mais vous savez qu'à partir de très bientôt, au 1er août, on aura la question préjudicielle devant la CEDH, puisque le 16e protocole entre en vigueur, en tout cas en France. C'est allé, bien sûr, devant la Cour internationale de justice, qui a rendu une décision extrêmement classique, protégeant l'orthodoxie de l'immunité des États. Alors, c'est un cas tout à fait exceptionnel, mais ça, c'est un cas très intéressant. Là, on est vraiment dans la situation globale, la situation qui est totalement globalisée, c'est-à-dire que, d'un point de vue juridique, les opérateurs font le choix de considérablement ouvrir les potentialités de circulation, donc, encore une fois, de présentation du cas devant des juges différents, parfois avec des circulations qui sont des relais de procédure. Hein, la présentation de la requête après épuisement des voies de recours internes devant la CEDH, c'est une procédure européenne. Le fait de transformer un conflit entre un individu et un État en conflit interétatique devant la CIJ, c'est un relais procédural qui permet de faire circuler, en quelque sorte, la situation devant des forts différents. Et le juriste qui est capable d'avoir cette approche, très fréquent d'arbitrage, coexistence du juge étatique et du juge arbitral, bien sûr, pour ne prendre que cet exemple. Idem pour l'arbitrage commercial international au sens règlement des différends de l'OMC. L'arbitrage droit international économique, j'y arrive. C'est la même chose. Bref, il y a plein d'exemples. Dernier élément, toujours sur la circulation. À la fin de ce travail, je me suis dit, bon, en gros, Jean-Sylvestre, tu as essayé de faire un travail d'explicitation des phénomènes de circulation juridique qui pouvaient amener le juriste à penser l'application du droit dans un contexte global. Maintenant, il faut que tu coupes circulation liée au travail juridique. Il faut que tu t'intéresses à la circulation en tant que telle. Et donc, c'est le stade où j'en suis aujourd'hui. Je peux vous dire que ce stade me place en situation de me mettre en totale incompétence. Voilà. Parce que alors là, je sors de mon cadre d'avant. Bon, je ne prends pas de risque puisque ma retraite est assurée près de la mer. Non, je plaisante. Ça y est, ma carrière est faite. Ça y est, c'est complètement. Ça, c'est indépendamment de Nice, ça j'entends, de manière autre. J'ai plus de promotion et autres à attendre. Tout ça est terminé. Donc, je me place en situation volontairement d'incompétence en essayant de me poser la question suivante. Si je veux comprendre, comme juriste, avec forcément des réductions très fortes de mes champs, parce que le juriste est obligé de réduire les réalités qu'il appréhende pour pouvoir les nommer, les catégoriser et les traiter par la règle de droit, si je veux les comprendre, il faut que je sois capable de sortir du droit, au moins un temps, de m'intéresser à des phénomènes de circulation qui, a priori, n'ont pas d'existence dans les constructions juridiques d'aujourd'hui, mais qui existent. C'est ce que j'appelle la circulation totale au-delà du contrôle, c'est-à-dire notamment tous les flux de circulation produits par l'homme et qui échappent à son contrôle. Les très gros exemples sont les gaz à effet de serre, les données, les déchets, les capitaux, les phénomènes migratoires. Donc tous ces phénomènes très importants que l'homme produit et qui échappent à sa maîtrise une fois qu'il les a provoqués. Et je suis presque sûr que je vais y arriver, parce que le fait d'avoir une sorte de vision surplombante, avec une vision, comment dire, très pluridisciplinaire de la circulation. Là, je lis trois bouquins de non-droit pour un bouquin de droit, et je jubile beaucoup plus à lire les non-juristes qu'à lire les juristes, non pas que je n'ai rien à apprendre des juristes, mais par rapport à mon objet, les autres matières ont travaillé depuis bien plus longtemps que nous sur ces phénomènes complexes de circulation, je suis presque sûr que ça va me permettre d'avoir, au fond, cette unité conceptuelle dont j'ai besoin pour traiter de ces situations d'échappement entre différents territoires, ces situations de flux au-delà du contrôle. Et ce concept, si je dois avoir une approche conceptuelle, que je dénie, toujours pareil, hein, je refuse de le faire, mais l'air de rien, j'y vais, hein, quand même, c'est ce vers quoi je vais, eh bien, c'est la circulation. Mais cela suppose avoir une vision beaucoup plus riche de la circulation. Alors, juste deux minutes pour expliquer. La démarche pourrait alors être la suivante. Plutôt que de partir d'un fait de circulation que je cherche à intégrer à la règle de droit qui ne s'intéresse pas spécialement à la circulation, bien souvent, qui s'intéresse à des points de localisation, par exemple, sur différents territoires, au passage d'un territoire à un autre, mais de manière généralement très embryonnaire. C'est rare que la règle de droit soit capable de prendre le flux dans sa globalité. Donc plutôt que de faire les choses, disons, ex post, de manière souvent indirecte, par les causes, par les effets, j'essaye d'identifier les scénarios, ce ne sont pas tous les scénarios où la règle de droit est capable de se saisir du phénomène de circulation en tant que tel. Il y a des exemples très connus, le droit des transports, hein, par exemple, il y a des boulevards, hein, il y a des choses où on le fait depuis fort longtemps, mais il y a des domaines où on le fait peu. Et ce que je suis en train de faire, c'est de remodéliser le traitement juridique au départ de différents modèles de circulation interterritoriaux. Donc c'est ça le travail que je suis en train d'essayer de faire. Et il est clair que dans ces nouveaux, ou dans ces modèles, ou ce qui pourrait être de nouveaux modèles pour le droit, pour appréhender les phénomènes de circulation, eh bien, il y a des connexions très importantes avec la globalisation. Alors si je conclue, je reprends mon point de départ qui n'a pas varié. Je m'intéresse au phénomène global. Je pense que le phénomène global est partout. Je veux dire, on peut le voir partout. C'est une manière de voir les choses. Ce n'est pas la manière de voir les choses, c'est une manière de voir les choses. C'est l'étal de mon épicier où je peux lui expliquer la globalisation rien qu'en regardant les boîtes de sardines ou de conserves qu'il a étalées sur son étal. C'est ce que je vais décrire à la Bourse de Paris. C'est ce que je vais expliquer à l'ONU quand il va falloir parler des contre-mesures ou je ne sais pas quoi, hein, pour imaginer tous ces juristes qui naviguent dans tous ces cercles très différents. Donc c'est une façon de voir les choses qui a une empreinte profondément phénoménologique. Et je pense que la difficulté pour les juristes, c'est de sous-investir l'approche du phénomène en tant que tel, de laisser ça aux autres. Pourquoi ? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le traitement juridique du phénomène. Donc le phénomène comme entité a priori qui existe avant que la règle de droit ne se construise est sous-investi par nous. En conséquence, on laisse ça à tous les autres. Et c'est là le travail que je voudrais essayer de faire, de dire les juristes doivent entrer en discussion avec les autres sur l'approche du phénomène, évidemment avec leur idée, qui est bien la délimitation derrière, mais dans un deuxième temps. Mais pour ça, il faut d'abord en sortir. Et je vois que deux clés possibles, l'approche a priori, j'accepte de parler de ce qui a priori n'est pas juridique, ce n'est pas un problème pour moi de m'intéresser à des objets qui a priori ne sont pas des production du droit identifié comme tel, premier élément. Et deuxième élément, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore, mais c'est une approche que je qualifie de modale, c'est-à-dire, sans rentrer dans la logique modale, parce que je n'ai pas du tout l'intention d'aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire que le juriste a cette force qu'il va pouvoir expliciter les modalités de la circulation qui pour lui ont un effet ou n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il va pouvoir expliquer aux autres disciplines, ben vous voyez, quand ça circule, ça pour nous c'est important et ça c'est pas important. Et ça c'est très important qu'on participe à ce type de discussion, parce que ça veut dire qu'on va mettre de l'intelligence juridique connectée aux autres intelligences. Il y a des choses qu'on va pouvoir corréler et d'autres qu'on va pas pouvoir faire. Bon, c'est pas grave, ce qu'on peut pas faire ensemble, on le fait pas. Mais il y a des choses qu'on va pouvoir faire. Mais pour ça, il faut rentrer dans un jeu où j'accepte d'expliquer comment, au fond, ma règle de droit s'accroche à quelque chose qui, a priori, n'intéresse pas le droit plus que ça. Voilà, je vous remercie.
On peut peut-être si, réutiliser le même format si Benoît souhaite intervenir, réagir et venir peut-être à côté de moi. Voilà, normalement ça marche.
Merci beaucoup. Je ferai beaucoup plus court pour ne pas monopoliser la parole et finir par parler plus longtemps que les intervenants. Je voudrais d'abord m'excuser platement auprès de Gilles pour avoir massacré son prénom dans la première intervention. Ça ne se reproduit
à chaque
pas.
Fois qu'on se voit, j'ai remarqué que c'est la même chose.
Et c'est toujours le même.
Je dois t'évoquer
un.
Non, non, c'est toujours Gérard.
Ah bon.
Mais je veux bien m'appeler Gérard.
Alors, je vous explique quand même la situation. C'est que Jean-Sylvestre et moi, on se connaît bien et on débat souvent de ces questions. Donc, ce que je vais lui dire, je vais vous le dire, parce qu'il sait très bien ce que je vais vous dire, ce que je vais lui dire, et on a en plus l'occasion de débattre trois fois de ce sujet en l'espace de quelques mois. Donc, c'est essentiellement à vous que je m'adresse par rapport à son exposé. Vous devez aussi savoir que, même si on n'a pas les mêmes mots, ce qui est tout à fait logique, on ne vient pas du même endroit, on n'a pas la même histoire, je me sens très proche de ce qu'il fait et particulièrement proche, je veux dire. Donc, je ne vais pas commencer à faire des objections qui n'en sont pas. Trois points très vite, donc. Premièrement, le mot, puisqu'il soulève la question du vocabulaire en disant « bon, ce n'est pas la chose la plus importante », je suis d'accord avec lui. Hein, et c'est vrai que ça rompt par rapport à une certaine tradition française qui a tout son mérite pourtant, mais qui est où on va beaucoup discuter la question du mot. C'était comme ça, moi je me rappelle, je fais ce genre de discussion depuis 20 ans, et donc pendant plusieurs années, on n'allait pas au-delà de savoir s'il fallait utiliser le mot mondial ou le mot global. C'est encore quelque chose qui tient à cœur, et pas forcément pour des mauvaises raisons d'Alain Supiot, par exemple, en France, et en disant, attention, vous ne parlez pas de la même chose, mondialisation, globalisation. Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Le problème, c'est difficile. C'est une conversation qui demeure alors française parce que c'est difficile puisque la littérature, comme disait Jean-Louis Alperin, et en fait les discussions dans ce domaine sont en anglais vu que c'est la lingua franca, ça ne passe pas. On ne peut pas le faire en anglais. Ceci étant, l'idée de parler de droit mondial est quelque chose qui n'est nullement propre à la France et c'est très allemand. Hein. Le Weltrecht. Et là, notamment chez des globalistes aussi centraux aujourd'hui que Teubner, par exemple. Hein. Donc, c'est certes, on peut parler de mondial. Alors, global ou transnational, très bien. Hein. Il faut pas, pour ça, le choix que vous avez fait ici en disant on ne va pas se disputer, hein, parce qu'en fait, on va commencer à créer deux communautés. Quoi, hein. Donc, on va faire deux séminaires et les uns vont en réalité dire tout le mal qu'ils pensent des autres, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. On est sur la même longueur d'onde. Pourquoi, je peux vous dire pourquoi moi je préfère utiliser le mot global par rapport à transnational. Je trouve que le transnational donne encore trop par rapport au national en le gardant dans son nom. Et ce que j'aime bien dans le global, souligne bien l'aspect méthodologique tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire le global, fait pas tellement référence au globe terrestre, mais montre aussi hein, l'idée d'une approche qui ne serait pas, et c'est très important par rapport au discours, à ce que vient de dire en terminant Jean-Sylvestre, dans une approche qui n'appréhenderait en soi que les phénomènes découpés déjà préalablement sont les pointillés de l'ordre du juridique. Par contre, le mot cosmopolitique, même quand on adore Kant, il est fatigué. Alors, vous pouvez prendre un outil sur Google par rapport aux ouvrages publiés depuis 1800 et vous pouvez alors taper droit international, droit mondial, droit global. Moi, j'ai fait l'exercice et ça paraîtra bientôt dans un livre sur les disciplines juridiques avec le droit global, mais vous pouvez le faire vous-même et je ne vous donne pas le résultat, comme ça vous allez le faire par vous-même. Deuxièmement, et pour exprimer en d'autres mots, mais en ayant le même souci que je trouve très important, ce souci de modestie, de ne pas se laisser prendre par le jargon, de se dire qu'on n'a pas réinventé tout à fait tout le droit, etc. Et je prends les leçons de Jean-Sylvestre je les prends pour moi parce que moi, tant de formation philosophique, je me verrais bien réinventer tout, vous voyez. Donc, je pense que tu as raison. Pour le dire autrement, j'ai l'impression, et il y a juste un petit point de questionnement, que ce que tu dis, c'est ben, revenons à une méthode des cas, hein, ce que tu appelles la situation, hein, et qui est une méthode on ne peut plus classique en droit et antérieure évidemment à la méthode du système, c'était celle dont on disposait, qu'on privilégiait avant la notion d'ordre et de système juridique depuis au moins le droit romain et même avant chez les Grecs. Et bien entendu aussi dans le droit biblique, qui ne fonctionne que comme ça. Donc, étude de cas du point de vue du juriste, a-t-il dit. Donc je traduirai en langage du participant, hein, plutôt que d'un observateur extérieur. Ça, c'est très important par rapport notamment à ce qui a été... Ça doit être discuté avec Jean-Louis Alperin, qui a utilisé une autre expression dont je ne vais pas retracer ici l'origine, mais du point de vue externe modéré, mais c'est autre chose, c'est un autre point de vue. Donc la perspective participant, 100% d'accord, hein, sur ce point de vue pour ceux où on est à l'ENS, qui sont, évidemment, il y a là un débat avec Hart qui prétend aussi une perspective de participant qui est influencée par Wittgenstein sur ce point-là, mais je ne creuse pas parce que je laisse aux normaliens faire leur travail, mais disons qu'on rentre là dans un thème majeur de l'épistémologie contemporaine. Mais très vite, ce participant prend une qualité, on l'appelle le juge, ou celui qui tient lieu de juge s'il n'y a pas de juge. Ce qui évidemment, alors d'un point de vue perelmanien, il y a deux grands rôles. Il y a le rôle de l'avocat, hein, puisqu'on est d'accord, c'est un juriste, hein, de toute façon, et à celui du juge. Hein. Évidemment, moi, il me semble qu'on voit encore mieux les phénomènes du point de vue de l'avocat, hein. Mais donc, qui n'est pas orienté la solution qu'il faut prendre, mais qui est orienté la solution à laquelle je veux arriver, moi. Ça révèle tout un tas de choses. Notamment quant aux normes qu'on va mobiliser. Parce qu'on croit que les normes qu'on va mobiliser, par exemple, c'est les normes « Ah oui, c'est normal qu'on prenne ici le droit hollandais et le droit irlandais ». Non, c'est les normes, et non, parce que ça a à voir avec la situation. Pas du tout, rien à voir avec la situation. C'est parce que c'est celle-là que j'ai décidé de mobiliser, ainsi que le droit de Gibraltar, parce que c'est ça qui m'intéresse pour parvenir au résultat que je veux. Après, au juge à me dire que ça n'a rien à voir. Mais je vais essayer de le coincer pour qu'il ne puisse pas me le dire, ou je vais essayer de me passer de juge. Donc ici, je dis, j'adresse une question à Jean Sylvestre, est-ce que c'est le juge ou celui qui en tient lieu, ou alors on reste dans une optique perelmanienne pour dire la chose, puisque ça, c'est le choix de Perelman, ou, de manière plus élaborée philosophiquement et dans la ligne, hein, il y a tout un dialogue évidemment entre le Habermas de droit et démocratie, hein, donc le juge comme point de fuite de la raison juridique, Fluchtpunkt, hein, c'est le point de vue du juge qui détermine. Et alors on est dans quelque chose qui en gros correspond à la fin du 19e siècle en Europe et aux États-Unis et à ce tournant important d'un droit législant très à un droit tel que le juge le voit le décide. On est chez Holmes et on est chez tout un tas de gens. En France, on pourrait évidemment en citer toute une liste et c'est très important. Ou alors, est-ce qu'on est dans un participant qui est encore plus engagé, le bad man de Holmes, hein, qui n'est pas cet homme mauvais, le bad man, hein, donc Oliver Wendell Holmes, fondateur du réalisme du pragmatisme juridique. Critère du bad man, c'est en fait critère d'un acteur opportuniste, égoïste et soucieux de ses intérêts et de minimiser ses risques, c'est l'homo economicus. Hein. Donc voilà. Je ne rentre pas parce que sinon je prends trop de temps sur le choix par hiérarchie des solutions. Là, il y a toute une discussion à avoir avec les auteurs de la fin du 19e siècle. Tout ça, ce sont des questions qui se sont posées. Mais alors, ce qui m'intéresse, et je termine par là, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, hein, donc on n'est pas à l'aise avec nos systèmes, on est un peu prisonnier. Donc on retourne aux situations, j'emploie maintenant les mots de Jean Sylvestre. Là, on regarde ce qui se passe, on est très modeste, on observe. Mais après avoir beaucoup observé et avoir une expérience de prof, d'écrivain, de praticien, etc., on se dit, on va quand même à la recherche, on reconceptualise. mais on ne reconceptualise pas en réinventant des ordres, même des ordres normatifs comme fait Heubner. On dit, tiens, mais quelle est la figure qui pourrait tenir lieu de ? Bon, alors nous, on appelle ça des dispositifs. J'ai parlé de chaînes, etc. Et ici, Jean Sylvestre vient avec l'idée de, je vais regarder tout le flux de la circulation. Donc, on va substituer une idée de système de règles ou une pyramide de normes ou un truc dans ce goût-là. Et on va regarder plutôt un flot de circulation. C'est quelque chose qui va très, très bien, qui effectivement, dont les origines sont les Saint-Simoniens, peut-être encore plus que Saint-Simon. Donc, c'est quelque chose qui est pensé par les Français au départ, ce modèle de la régulation des flux. Donc là, je crois que l'épistémologie, elle est, j'aime bien quand même le dire, parce que c'est important. On croit que tout est anglo-saxon dans cette histoire, sauf quand on commence à penser un peu dur. Hein. À ce moment-là, on revient évidemment sur les fondamentaux. Hegel, il n'est pas convoqué ici pour l'instant. Le pragmatisme, quand même, ça vient de là, mais on n'a pas l'occasion de discuter de ça. Saint-Simon, etc. Donc, il faut ici parler des Saint-Simoniens, mais qui est évidemment un modèle qui est celui de la régulation, c'est un modèle qu'aime bien la théorie de l'information, qu'aiment bien les économistes, les deux quand ils se mettent ensemble, ce qui est le cas aujourd'hui. Et évidemment, dans les phénomènes de circulation, moi, je pense que tu évoquais un certain nombre de secteurs. Moi, le secteur qui me frappait très, très, très fort, c'est la finance, évidemment. Hein. C'est la finance qui joue un rôle de fait majeur. Et la régulation des flux financiers, je n'entre même pas dans le commencement d'un mot là-dessus, mais ce n'est pas si compliqué que cela veut paraître pour qu'on ne s'en occupe pas. Hein. Quelqu'un qui a normalement armé en droit des obligations et des contrats et qui ne se laisse pas avoir par du vocabulaire de fantaisie s'en sort très bien. Et là, on est vraiment dans le flux total. Hein. L'Internet aussi, bien entendu. Et donc, tout à fait d'accord avec cette idée qu'on a envie quand même après d'en revenir à réorganiser les choses au-delà de... On ne va pas seulement faire 150 cas. Tiens, ben le droit global. Mais écoutez, on a fait 150 cas, on a appris plein de choses. Ça ne nous suffira pas. On voudra quand même notre petite théorie. Rien de plus pratique qu'une bonne petite théorie. Mais cette théorie, on voudra l'inventer selon d'autres métaphores, pas forcément nouvelles, peut-être nouvelles qui soient, alors qui nous dégagent un peu de certaines métaphores qu'on a usées jusqu'à la corde et qui donc nous servent un peu moins ou nous amusent un peu moins. Et donc je partage tout à fait là-dessus. Je crois que la circulation, effectivement, les flux, est quelque chose qui est très en phase avec l'esprit du temps, et qui n'en est pas pour autant une mauvaise idée, et surtout d'introduire un peu ça dans le droit, ce que certains s'attachent à faire, et que je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et là, une fois de plus, je suis d'accord avec Jean-Sylvestre Berger, donc je m'arrête.
Merci beaucoup.
Je ne sais pas si...
Juste la seule petite question. Juge ou avocat, moi, je veux toujours garder les approches ouvertes. C'est-à-dire que tout ce qui m'enferme dans une compréhension plutôt qu'une autre et me prive de la possibilité de voir d'autres choses, j'en veux pas. Voilà. En tout cas, si ça intervient trop tôt dans le processus. Donc, pour répondre à ton question, j'ai été avocat avant d'être prof. Le bon avocat fait un travail de juge. Le bon avocat, c'est celui qui sert au juge le boulot qu'il doit faire. Et un avocat vraiment intelligent, c'est un avocat qui pense comme un juge et qui pense tellement bien qu'il va faire gagner du temps au juge, qu'il va emprunter sa méthode de pensée parce que c'est comme ça qu'il va sortir son jugement sans avoir à tout réfléchir parce que quelqu'un lui aura mâché le boulot. C'est ça un vrai boulot d'avocat. Bon, mais sans rentrer là-dedans, c'est le juriste. Dans toutes ces familles et dans la pratique juridique, je mets aussi la pratique théorique. Je ne fais pas de dichotomie entre les deux. La théorie est une pratique du droit par des outils conceptuels, mais c'est une pratique. Voilà. Alors après, est-ce qu'elle a un lien avec la pratique du praticien ? Des fois oui, des fois non. hein, bien sûr. Est-ce qu'on s'en rend compte? Des fois, oui, malheureusement. Des fois, non, bien sûr. Mais pour moi, il n'y a pas de dichotomie. Hein. Donc, c'est très ouvert. Et je ne cherche pas du tout à donner au dernier qui parle, ou même au premier qui parle, selon la figure, donc au juge, en clair, nécessairement, la question d'avoir le pouvoir de dire le droit, ça peut se faire de tas de manières différentes. Quand on a des négociations sans juge...